Vivre Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 101.5 au cœur de Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool. J'ai de la gym.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le lundi 22 avril et ici Charline Caro, votre animatrice pour bien débuter la semaine. Et aujourd'hui, on reçoit le président fondateur de l'école Kayak Sans Frontières, suivi de l'artiste pop Philly. Sans oublier la chronique humour de Thibaut Varin. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier à l'occasion du Jour de la Terre. La manifestation s'est déplacée sur l'avenue du Parc et a appelait les gouvernements à en faire plus face au changement climatique. C'est une mobilisation plus faible que les précédentes années, expliquée selon l'organisatrice par le découragement initié par l'inaction politique. Et ensuite, les hockeyeuses des équipes de Montréal et de Toronto se sont affrontées samedi au Centre Bell devant une salle comble de plus de 21 000 spectateurs. Il s'agissait du tout premier match de cette ligue professionnelle de hockey féminin dans cette arène, battant au passage le record d'assistance à un match de hockey chez les femmes. Montréal s'est finalement incliné 3-2 en prolongation après une partie riche en occasions. On continue sur CIBL pour parler de surf sur le Saint-Laurent. Et je reçois ce matin Hugo Lavictoire, président fondateur de Kayak Sans Frontières. Bonjour Hugo.
Bonjour.
KSF, Kayak Sans Frontières, c'est une école de kayak, de surf et de planche à pagaie à Montréal que vous avez fondée en 1995. Tout d'abord, d'où part cette initiative?
Ça a débuté après avoir suivi un cours de kayak. Tout simplement, je suis tombé en amour avec la discipline. Mm-hmm. Et puis, ça corroborait un peu avec un changement de carrière pour ma part. Là. Je me dirigeais en technique policière et j'ai décidé de m'en aller en tourisme à la place.
D'accord. Donc, vous avez d'abord basé cette école sur le kayak et après, d'autres disciplines sont venues, c'est ça?
Absolument. Au début, Kayak Sans Frontières, on était une petite école itinérante. Mm-hmm. Donc, nous étions sur le bord de la rivière Petite Nation en Outaouais. Ma région natale, et puis on donnait des cours de week-end essentiellement. Mm-hmm. Et ensuite, ça a grossi tranquillement, organiquement. On a développé des autres succursales, d'autres satellites sur d'autres sites, donc Rivière-Rouge, Jacques-Cartier à Québec, etc., pour tranquillement s'en aller vers d'autres types d'activités. Mm-hmm. Au début, Kayak Sans Frontières, c'était bien sûr pour peut-être faire du kayak ailleurs, mm-hmm. des activités ailleurs, mais on a débordé du kayak aussi en introduisant le surf de rivière là, en 2003 et ensuite la planche à pagaie, le paddle, mm-hmm. En 2007.
Il y a notamment, en effet, le surf qu'on associe normalement aux grosses vagues de l'océan. C'est quoi le surf de rivière?
Bien, le surf de rivière, ça consiste à surfer une vague statique, une vague stationnaire, une vague éternelle. Il y a plusieurs façons de le dire. Principalement, la vague ne bouge pas. Elle va rester sur place. Mm-hmm. Et puis, c'est possible de la prendre à la nage, un peu comme en océan, se lever debout, pratiquer ses virages et rester dessus beaucoup plus mm-hmm. longtemps qu'en mer. Donc,
et techniquement, comment sont créées ces vagues? Qu'est-ce qu'elles font qu'elles sont éternelles?
Bien, ça prend un premièrement, ça prend un courant, donc mm-hmm. Un débit d'eau. Ensuite, ça va prendre un dénivelé dans le lit de la rivière, mm-hmm. un obstacle, une roche, mais souvent, ça va être créé par un trou, une dénivellation. Et puis, ben, l'eau descend et veut reprendre sa place et ça crée une vague.
Très bien, tout simplement. À Montréal, il y a plusieurs spots de vagues que vous exploitez. Où sont-ils?
Il y a principalement la vague à Guy à La Salle, qui est la plus petite, mais mmh. la plus accessible, une des plus populaires. Et ensuite, il y en a une derrière Habitat 67, donc près du Vieux-Port à Montréal, qu'on appelle Habitat 67, puisqu'elle est derrière.
Mmh, très bien. Vous dites que des vagues comme ça, il y en a partout dans le monde, mais qu'elles ne sont accessibles que 2 ou 3 jours par année, alors qu'ici, c'est en tout temps. Alors, c'est tout bénéfique.
Oui, bien, ça peut être même au Québec, on en a d'autres vagues comme ça qui peuvent être accessibles 2-3 jours, des fois des semaines. Mais ça va fonctionner principalement avec la crue printanière, donc avec beaucoup plus d'eau. Et puis, quand la rivière descend, bien, la vague disparaît ou change mm-hmm. trop pour qu'elle puisse être pratiquée.
C'est inédit de pouvoir faire du surf en ville. C'est une chance assez unique.
On est très chanceux,
unique.
Oui, auprès d'une métropole comme Montréal. Là. Et puis avec un cours d'eau comme le Saint-Laurent, oui, mm-hmm. c'est encore plus rare, là, puisque ce n'est pas une rivière, c'est un fleuve. Là. Mm-hmm.
Et là, nos auditeurs se demandent sûrement si eux aussi peuvent surfer sur le Saint-Laurent. C'est accessible à tout le monde, ces activités-là?
Absolument, ouais. Oui. C'est accessible à tout le monde du moment qu'on a le goût d'essayer quelque chose de nouveau, d'être à l'aise dans l'eau en mouvement, parce qu'on fait ça dans l'eau, bien mm-hmm. sûr, et c'est une rivière. Donc, des fois, ça peut être un peu plus paniquant, mais tous nos étudiants sont équipés avec soit une combinaison isothermique s'il fait froid, mais essentiellement une veste de flottaison et un casque aussi, mm-hmm. donc pour rendre la chose plus sécuritaire.
Ben, c'est parfait. Vous proposez également différentes activités autour du stand-up paddle ou de la planche à pagaie en bon français, dont on parle à son propos de succès exponentiel. D'où vient ce succès? Quels sont ses atouts à la planche à pagaie?
Bien, la planche à pagaie, si on le compare au kayak ou au canot, bien, c'est une embarcation où on n'est pas pris à l'intérieur, mmh. on est debout dessus. Si on tombe, c'est beaucoup plus facile de remonter sur la planche. Le fait aussi de sa position un peu plus naturelle d'être debout, mmh. Notre champ de vision est meilleur, on voit plus loin. Et ensuite, il y a plein de déclinaisons, de possibilités de faire de la planche à pagaie, que ce soit juste de la balade, du fitness, du yoga, de la rivière, du surf, de la pêche. On peut faire tellement de mm-hmm. déclinaisons de cette activité-là que ça la rend très populaire aussi. Mm-hmm.
Et parmi ces activités, les descentes du fleuve Saint-Laurent, notamment sur 12 km que vous organisez, notamment au coucher de soleil, c'est une visite de Montréal assez insolite.
Absolument. Proposez. Oui, on est un peu en périphérie de Montréal, mais oui, on se sert du courant, on se sert du débit. Donc, on prend un camion remorque, on monte en amont et puis on se laisse descendre avec le courant sur 12 km à partir de Dorval jusqu'à la salle. Mm-hmm.
Et vous le disiez, la planche à pagaie, ça permet aussi de faire du yoga et du fitness. En quoi ça consiste exactement?
C'est dans le cas du fitness, ça va être de faire des activités, des séries d'exercices qu'on pourrait faire au sol, mais là, on va le faire, on va rajouter une difficulté en la faisant sur la planche. Donc, ton plancher bouge. Donc, ça demande la proprioception. Donc, ouais. Tous les petits muscles de notre corps qu'on a découvert, qu'on a appris à marcher, vont être sollicités. Et puis, ça va faire un exercice très complet. Par le fait qu'on est debout, mm-hmm. par le fait aussi qu'on fait des exercices. Le yoga, ben, c'est exactement comme un cours de yoga, mais encore une fois, ton tapis va bouger. si tu mets trop de poids à droite, ouais. ça bascule à droite. Ouais. Donc, ça demande d'être très centré dans son corps et dans sa technique.
Et ça a du succès, cette activité?
Absolument, oui, ouais. C'est très populaire. C'est une façon très ludique, le fun de faire du yoga dehors. Ouais. Puis ensuite, souvent, l'environnement va amener des bruits d'oiseaux, le vent, les vagues, le clapotis. Donc, oui, c'est
tout
vraiment...
Tout ce qu'il faut au yoga, finalement.
Exactement, pour être encore plus zen.
C'est ça. Est-ce que c'est plus des amateurs de yoga qui font du yoga, du fitness sur planche, ou c'est plus des surfeurs, des sportifs aquatiques qui se replient sur ça pour l'entraînement?
Un peu des deux, mais majoritairement ouais. des gens de yoga ouais. qui veulent un peu diversifier ou donner un défi supplémentaire à leur pratique. Mm-hmm.
Avec toutes ces activités que vous proposez, on se croirait en bord de mer et pourtant on est bien à Montréal. Quelle opportunité il représente ce fleuve pour les Montréalais?
Bien, une opportunité. La raison principale pourquoi Montréal est ici aujourd'hui, c'est à cause des rapides de la Chine, donc mmh. à cause du fort débit qu'il y avait. Ils n'ont pas pu remonter plus haut, se sont installés et c'est devenu Montréal. Et c'est une occasion d'avoir un accès direct à l'eau, pour la baignade, pour une panoplie d'activités nautiques non motorisées. Donc, c'est une chance unique pour une ville comme Montréal.
Et est-ce que les Montréalais se rendent compte de l'opportunité que représente le Saint-Laurent?
Je dirais, heureusement, de plus en plus. Mm-hmm. Mais ça a pris un certain temps. Nous, ça fait presque 25 ans qu'on est installé à la salle. Et c'est toujours un combat éternel avec le fait que les gens pensent que le fleuve est pollué ou que c'est un déchet ou une poubelle. Et il suffit de les amener une première fois pour qu'ils se rendent compte que, waouh, non seulement c'est accessible, c'est là, mais c'est beaucoup plus propre qu'on pense.
Et vous parlez de cette réputation de pollution, mais vous y baignez tout l'été.
Absolument.
C'est donc un fleuve qui est totalement baignable.
Absolument. Comme l'eau circule aussi en plus, donc on a une eau qui n'est pas stagnante. Donc oui, il y a des échantillonnages, c'est intéressant de dire qu'il y a une carte là, interactive, le réseau du suivi aquatique à Montréal, donc tout, il y a 250 endroits qui vont être échantillonnés et puis tout l'été dans notre secteur, l'eau est baignable.
Et c'est une chance, on voit à Paris notamment qu'ils essayent de rendre la Seine accessible à la baignade. Aujourd'hui à Montréal, ça l'est déjà naturellement. Donc
exactement, oui, on est très chanceux, il faudrait que les Montréalais en profitent un peu plus.
Et depuis que vous avez fondé votre école, est-ce que vous voyez quand même même cet effet de démocratisation du fleuve, ce succès grandissant chez les Montréalais.
Oui, absolument. Puis on l'a vu surtout dans la pandémie. Durant la pandémie, les gens qui ne pouvaient pas quitter Montréal et qui voulaient aller dehors, avoir une distance entre chaque personne. Donc, le fleuve est devenu de plus en plus populaire. Et puis, on le voit là, d'année en année.
Très bien.
Les réseaux sociaux aident aussi.
Oui. Quels sont les profils de votre clientèle? On parle des Montréalais. Est-ce que ce sont des surfeurs aguerris, des débutants? Est-ce qu'il y a des touristes?
On a de tout.
Ouais.
On a beaucoup de gens qui vont être locaux, donc qui vont être de notre quartier, mais ensuite des Montréalais, des gens qui vont venir un peu à l'extérieur de Montréal. Après ça, quand on vient de l'extérieur de Montréal, ne serait-ce que Québec ou Trois-Rivières, ben, ça devient un peu des touristes. T'es pas obligé d'être un touriste qui vient d'ailleurs, donc des touristes locaux, régionaux, provinciaux. Puis ensuite, ben, on a tous les touristes qui viennent de France, des États-Unis, du reste du Canada. Et puis ça, c'est les réseaux sociaux et le site Internet qui nous permet d'aller chercher cette clientèle-là. Ouais.
Vous voulez donc faire profiter du fleuve au plus grand nombre, on l'a dit, mais tout en y laissant la trace la plus faible possible vis-à-vis de votre passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous faites?
Bien, ça veut dire qu'on a un devoir de laisser le fleuve mieux qu'il était avant notre arrivée. Puis ça, c'est pas juste nous, c'est tous les pratiquants devraient penser comme ça. Donc, c'est le principe du sans-trace dont on adhère. Et puis après ça, bien, de sensibiliser notre clientèle. Puis souvent, sans faire une morale aux gens, juste le fait de les amener sur l'eau, ils vont se rendre compte que, ouh, wow, ça va changer leurs habitudes de consommation puis de pollution parce qu'ils vont se rendre compte que c'est un bijou puis qu'ils veulent le protéger encore plus. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait là, bouche à oreille, avec notre clientèle. Ensuite, ben, on a des actions un peu plus grandes comme 1 % pour la planète. Donc, on remet 1 % de notre chiffre d'affaires avec Aventure Écotourisme Québec puis un fonds plein air qui est créé. Donc, c'est une façon à nous de redonner à l'environnement, que ce soit planter des arbres ou prendre des actions sur des rivières, sauver les belugas, etc.
Pour vous, c'est un devoir de faire ça. Ça paraît naturel, mais dans l'industrie du tourisme, il y a quand même une certaine pollution. Mais pour vous, c'est vraiment un devoir. C'est quelque chose de spontané que vous faites là, de protéger votre environnement.
Oui, on se doit de le faire puisque notre outil de travail numéro un, qui est l'environnement, qui est le fleuve. On ne peut pas se permettre de le polluer. On viendrait couper notre entreprise, puis pas juste pour nous, pour des générations futures. Donc, oui, c'est un devoir.
Très bien. Et l'hiver, qu'est-ce que vous faites?
Bien, l'hiver, on se repose un peu, on prépare la saison suivante et on fait un petit voyage dans le sud au Costa Rica pour continuer à surfer et être en vacances.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Hugo, d'être venu nous parler de ce surf, de ce kayak sur rivière. Toutes les informations sur ksf.ca, sachant que la saison reprend début mai, c'est ça, le 4-5?
Début mai, c'est le début de notre 29e saison.
Eh bien, on vous souhaite une bonne 29e saison et puis bonne continuation pour la suite.
Merci pour l'invitation, bonne journée.
On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'artiste Philly.
Le rap a taillé ce visage massier. Mes mots me définissent par mon casier. Personne n'avance sans s'assumer son passé. Mes agouras leur perte avec des chaussures sans lacets. Appart avec fenêtre sur le futur. Je fais ça pour le kiff, je fais ça pour ma culture. Pour la mémoire de mon père et de ma mère. Mes poèmes sont si peu, c'est juste ma bouteille à la mer. Affronte les nazis nouveaux dans mon petit aile à la main. J'accueille Klaus et Bill, une pelle à la main. Mon temple Shaolin, sentait le sulfure. Je suis cet analphabète, frère, elle t'emmerde ma culture. Pendant que ces connards livrent des panzers, leurs bateaux de croisière et sèment des cancers. Je vis de plus en plus dans mes pensées. Laisse-moi rêver dans ce bar où la mort nous attend pour danser. Je fais pas la guerre pour le lèche-cul de la classe. Je fais la guerre pour que ma culture ait sa place. Je resterai le même quoi que ces chiens fassent. Et comme Carlito, j'attends debout au bout de l'impasse. Culture, je fais ça pour ma culture. Culture, je fais ça pour ma culture. À mes tout débuts, c'était pour le loisir. Freestyle dans le parc était qu'un hobby. Finalement le rap transpire dans mes habits. J'ai pas choisi cette culture, c'est la culture qui m'a choisi. Je me prends pas pour Elvis, la culture, je suis à son service. Sur mon pied de micro, j'ai mis des Stan Smith. Enfermé dans mon studio comme un ermite. À tester les métaphores et les samplings. Beaucoup ont sous-estimé ma trajectoire. Mais tant que vous vous êtes trompé, vous pouvez y aller vous faire voir. Mes deux mains sont faites d'argent comme Edouard. Pour cette culture, j'ai sacrifié des soirées où j'allais boire dans les boîtes. Pour cette culture, j'ai tellement téléchargé de MP3 que j'ai crashé mon laptop et mon desktop.
Les chansons sur mon téléphone sont chargées. C'est à la mémoire de Mark Gibb et de Shock J. Les mixtapes dans le coffre d'une vieille Toyota. Pour sec tu te sûr, je vais pas changer d'un Yota. Que ça soit un printemps, que ça soit un automne, je suis la voix du samouraï comme Ghost Dog dans la grosse pomme. Cette culture, je veux la garder vivante. Du réchauffé, c'est ce qu'ils me vendent. J'suis peut-être cette voix qui manque, c'est pour ça que j'garde ça fresh ton hiver en Islande pour ma culture. J'fais ça pour ma culture. 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 Comment que m'en fait, ouais, m'a l'air bien clair. Encore à soi, crée bien que mal et ouais. Dis-moi comment qu'il t'en faut, ouais, m'a l'air bien beau. Avec le gros ciseau, t'appelles-te bien tantôt. Je regarde ça dehors, ouais, ça tombe encore. Ah ben, m'a dit comme vous, on est bien en mou. Pas trop tôt pour tant de chiards, ça passe longtemps rare. Pas grand monde dans le parloir, ça jase pas bien fort. Pas oublier tes mains, oh, je sais que tu sais bien. Comme une amande, les yeux grands ouverts, ce ciel à soi. Assez long, longtemps, on peut bien coucher dehors. Avec nos cœurs carnivores. Comment faire sans tes grands yeux verts? Tu passes-tu par chez nous en un beau dimanche? Mais ailleurs pis partout, je me disais ben c'était quoi les chances? Quand c'est assez, on respire. Et à te demander, ouais, j'ai à dire. Ah, sûrement pas grand chose, pop des fois, je l'aime à dose, on s'entend. Ah, c'est long, longtemps, on peut bien coucher dehors. Avec nos cœurs carnivores.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache ta toune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache ta toune, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL 101.5.
Monsieur Bulle et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal.
Je reçois ce matin l'auteur, compositeur, interprète Philippe Durand, alias Philly, qui sort son nouvel EP Vanille Contact. Bonjour Philly.
Salut Charline, ça va bien?
Eh bien ça va très bien, et toi?
Oui, full bien, merci de me recevoir.
Eh bien avec grand plaisir. Comment se passe le lancement de l'EP?
Le lancement, ça se passe bien. Écoute, vraiment des beaux retours d'une part de ma famille puis de mes amis proches, puis ça me touche beaucoup par rapport à plusieurs expériences dont parlent les chansons. Puis aussi un beau retour, c'est ça, tu sais, du côté des radios, puis du côté plus de l'industrie, je suis vraiment content. Tu sais, aussi, il y a vous qui font jouer ma chanson Juliane souvent, fait que merci pour ça, tu sais, c'est vraiment cool.
Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, il y en a peu, je te rassure, comment tu décrirais ta musique?
Je dirais que c'est de la pop naïve, c'est la façon que je décris ça. La pop naïve, c'est, selon moi, à mes yeux et à mes oreilles, c'est toute la musique qui oscille entre la rêverie du folk et l'insolence du rock. Fait que c'est de la pop qui est fédérée par un désir adolescent d'affronter les vertiges, de s'assumer, de crier, puis de chuchoter quand il faut. Ouais.
Ben c'est une description très précise, merci. Qu'est-ce qui te plaît dans la pop naïve en tant qu'artiste?
Je pense que c'est le côté désinvolte, de juste se dire... tu sais, j'ai grandi en écoutant beaucoup du Michael Jackson, puis tu sais, de la pop qu'on pourrait qualifier vraiment... ou de la hyper-pop, puis tu sais, il y a comme, à la fin de chaque chanson, il y a le refrain qui revient, il y a comme les trompettes qui sortent, il y a une grandeur dans ces chansons-là qui vient d'un désir tellement simple, tu sais, de comme s'assumer puis vivre ses désirs, j'ai l'impression, puis c'est ça que je trouve puissant, tu sais, dans la pop, puis aussi faire de la pop de façon naïve aussi. Mm-hmm.
Et ça ajoute quoi, le naïf? Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement?
Pour moi, le naïf, c'est fait un peu avec sans souci, puis avec une posture candide. Fait que, tu sais, comme quand un enfant, je sais pas, là, un enfant qui pointe de quoi, puis c'est comme, ah, pourquoi le monsieur, il fait ça? Ou pourquoi, tu sais, un enfant, mettons, en file d'attente, il va dire, ah, pourquoi le monsieur est enceinte, tu sais, quand un monsieur est gros? Mais tu sais, il y a des choses qui sont vraiment percutantes dans le naïf, qui se rendent vraiment loin. Tu sais, c'est le simple, mais percutant, le naïf, fait que... Je trouve que c'est une belle posture pour communiquer des choses.
Et ton nouvel EP, le deuxième, s'appelle Vanille Contact. Il y a tout dans le titre, il y a la naïveté.
Ouais, c'est ça. C'est guidé par la naïveté. Puis Naïve Contact, excusez.
Ça aurait pu être aussi.
Petit lapsus, ouais. Mais Vanille Contact, c'est ça au final. Ce que ça veut dire, c'est entrer en contact avec la vanille en soi ou en autre mot, ce qu'on entend souvent, c'est entrer en contact avec l'enfant en soi. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de. Reconnecter à la douceur à l'intérieur de soi, mais aussi, des fois, au chaos, puis à toute cette frénésie-là, à cette insolence-là. Puis c'est vraiment ça que je voulais mettre de l'avant, tu sais, avec Vanille Contact.
Pour le premier EP, tu parlais de la réalisation d'un rêve de petit gars. Qu'est-ce que représente le deuxième?
Je dirais... Ben, ça représente plusieurs choses. Je dirais la continuité d'un rêve de petit gars, mais aussi... pour moi, c'est pousser ce rêve-là plus loin, puis c'est comme revendiquer les désirs avec la musique. C'est vraiment s'assumer, prendre sa place, puis faire face à... c'est coming of age, c'est le passage à l'âge adulte, puis c'est vraiment faire face, puis de continuer à grandir à travers tout ça. Puis, je dirais que c'est plutôt ça. Ouais.
Ça fonctionne. On dit que tu as gagné en maturité musicale et lyrique entre le premier et le deuxième. T'es d'accord, déjà?
C'est qui a dit ça?
Ah, j'ai entendu dire, je ne citerai pas mes sources. Non, cool. Mais sur certains articles, on dit que tu as gagné en maturité, dans ton communiqué aussi. Par quoi ça va se traduire?
Je dirais que le deuxième projet est plus concis, plus droit au but. Puis... aussi dans comment les sujets sont abordés. Je pense que mon premier projet, mon EP Reflet, qui est sorti en 2021, il y a 3 ans, ben j'avais tellement beaucoup de choses à dire, puis quand je le réécoute, il y a de quoi que j'apprécie vraiment de ça, puis que je fais moins maintenant, puis c'est moins vers ça que je tends, où, tu sais, j'ai beaucoup de racines dans le slam, dans la littérature, puis j'essayais de... Ben, je communiquais beaucoup, beaucoup de choses dans mes chansons. Fait que mes chansons étaient vraiment chargées. Je pense qu'il y a une légèreté puis une accessibilité qui est accrue avec le deuxième projet. Puis ça, j'en suis vraiment contente. C'est ça que je voulais faire.
Et justement, quels sont les sujets que tu abordes? Est-ce qu'il y a une ligne directrice?
Dans Vanier Contact, ouais, ben, tu sais, la ligne directrice, c'est toujours rentrer en contact avec la douceur. Tu sais, le but pour, tu sais, Vanier Contact, pourquoi j'ai fait ce EP-là, c'était pour moi, à la base... trouver un petit oasis de douceur à l'intérieur du chaos qui est la vie moderne, tu sais. Puis mon but, c'est aussi d'offrir ça à tout le monde, tu sais, qui veulent l'écouter. Fait que les sujets, si tu veux, on peut passer à travers les cinq chansons, les sujets. La première, c'est laver les assiettes. Fait que ça, c'est beaucoup une... je dirais, c'est une critique mondaine des dynamiques de performance qu'il y a dans la société, qu'il faut tout le temps... faut toujours performer tout ce qu'on fait, même si c'est faire la vaisselle, faut le faire bien efficace, puis... C'est ça. La deuxième, c'est Juliane. C'est le portrait d'amoureux à temps partiel qui sont séparés par l'autoroute 20 puis qui se voient seulement la fin de semaine. Mais comme dans beaucoup d'amour à temps partiel, l'amour à distance, c'est toujours à recommencer à chaque vendredi. Puis il faut éteindre le feu chaque dimanche après-midi. Le même banc, ça parle beaucoup de l'indisponibilité émotionnelle dans une relation amoureuse. Tu sais, d'être là, d'être assis sur le même banc, mais pourtant, t'as l'impression qu'il y a un kilomètre de distance entre toi puis l'autre. Il y a l'autre banc qui a un petit interlude instrumental. Puis « Dis-moi tout », ça, c'est vraiment revendiquer la douceur puis accepter le vertige. C'est vraiment ça pour cloître le EP.
Tu mets donc sur le papier tes interrogations, tes peurs personnelles. Écrire un album, c'est aussi le moyen de faire une petite thérapie personnelle, un travail sur soi.
Ouais, absolument.
C'est comme ça que tu le vois?
Ouais, c'est comme ça que je le vois. Puis, tu sais, ça demande beaucoup de confrontation, tu sais, écrire... ouais, de composer les tunes puis de les écrire, c'est... Tu sais, au final, pourquoi j'écris ça? Ou t'écris une tune puis tu te dis, OK, le personnage, il va faire ça, il va faire ça. Puis au final, c'est toujours une projection de toi ou une projection de quelqu'un que t'as vraiment aimé. Puis c'est ça, c'est nécessairement thérapeutique, tu sais, si on veut que ça soit concis et cohérent. Ouais.
Ces thèmes que tu abordes, tu dis qu'ils sont très Gen Z, Génération Z, les jeunes. Est-ce que tu penses à la résonance qu'auront tes textes pour le public quand tu les écris, ou c'est personnel avant tout?
Non, j'y pense tout le temps, ouais. Puis tu sais, le monde, il dit souvent « Ah, la musique, je fais juste ça pour moi », mais tu sais, il y a plein de monde qui le savent, c'est quoi faire un show devant deux personnes, puis genre, tu sais, tant mieux si le monde trouve ça vraiment le fun, mais c'est le fun quand il y a des gens, puis c'est le fun que ça résonne, puis... Moi, c'est ça, mon but, c'est que ça fasse appel aux gens. Puis, tu sais, c'est beaucoup dans les lieux que je décris. Tu sais, mon rapport au lieu, c'est vraiment important dans ma musique puis dans mes textes. Puis, tu sais, c'est le... Il y a un langage sincère, mais naïf quand même. Puis ça, c'est clairement comme... c'est dirigé, si on veut, vers les Gen Z, tu sais, puis ma génération aussi, ouais.
Et quel impact tu veux avoir sur ton public?
Ben, je leur souhaite de trouver la vanille en dedans d'eux, tu sais. C'est ça le but, c'est entrer en contact avec la vanille, tu sais. Si ça peut faire un petit oasis de douceur dans votre journée, ça me rend vraiment heureux, puis je le souhaite à tout le monde qui écoute en ce moment, puis, tu sais, c'est comme un pissenlit qui pousse dans le crack du trottoir, tu sais. It's not much, mais c'est vraiment, ça fait vraiment du bien quand tu le vois, genre.
C'est un bel impact et on souhaite que le public trouve cette vanille. Est-ce que toi, là, tu parles en tant qu'artiste, est-ce qu'en tant qu'auditeur, avant ou maintenant, il y a des chansons qui ont fait ce genre d'effet sur toi, qui ont eu un impact important dans ta vie?
Ouais, il y a plusieurs chansons, ouais, beaucoup de chansons qui ont eu un impact sur moi de cette façon-là. Puis c'est aussi en écoutant ces chansons-là, tu sais, je pense à Avec Podcast, c'est mon groupe préféré. Puis là, j'ai entendu qu'ils sortent un nouvel album en octobre prochain, je capote. Puis en écoutant du Avec Podcast, c'est toujours ça que ça me fait. C'est comme si l'horloge s'arrête, puis ce moment-là m'appartient complètement, puis c'est une rencontre à l'intérieur de moi. Puis moi, je trouve que c'est comme l'expérience la plus puissante que tu peux avoir avec la musique. Mm-hmm. Que ça soit en spectacle ou dans tes écouteurs, dans la bus. Ah, excusez, je viens de Québec, fait que je dis la bus.
Il n'y a pas de souci.
Le bus pour tout Montréalais, Montréalaise. Ouais, c'est ça. Fait que dans le bus, tu écoutes ça, puis tu sais, c'est transcendant autant. Fait que, ouais.
Et justement, comment on écrit une chanson? Quel est ton processus créatif?
Moi, c'est quand je prends des marches, j'ai des mélodies pognées dans la tête. Fait que là, je mets le dictaphone, puis je fais juste chanter des mélodies, puis souvent, avec les mélodies, il y a comme des mots qui vont habiter cette mélodie-là, puis souvent, je pars de ça. Puis après ça, tu sais, c'est beaucoup la jammer avec mon band, tu sais, voir c'est où qu'elle s'en va. Puis souvent, quand tu fais juste écouter puis continuer, la chanson, elle va te dire c'est où qu'elle veut aller. En tout cas, ça, c'est comme...
C'est ma façon de voir ça. C'est elle qui décide.
C'est elle qui décide, mais tu sais, pour des textes comme « Dis-moi tout » puis « Laver les assiettes », c'est parti comme ça, mais à un moment donné dans le processus, j'ai vraiment dû m'arrêter puis faire « OK, c'est de ça que je veux que ça parle. Mm-hmm. Faut que ça soit plus concis. On va aller dans cette direction-là. »
Donc, ça a l'air d'abord d'être la mélodie et après, le texte, ou ça varie?
C'est souvent la mélodie en premier, okay. Je trouve. Ouais. En tout cas, pour moi, je sais pas, mais je sais pas les autres, là, mais ouais, pour moi, c'est ça qui fonctionne. Ouais.
Est-ce qu'il y a des moments où tu es plus inspiré que d'autres? Tu nous parlais de la marche. Est-ce qu'il y a des moods, des périodes de l'année où il y a plus de créativité en toi?
Oui, absolument. L'automne, là.
Ouais. C'est cliché, mais c'est vrai.
C'est cliché, mais genre, dès qu'il y a le changement d'heure, là, je pense que c'est plus un besoin là, d'écrire puis de composer. Plus,
pourquoi? Parce que t'es mélancolique?
Ouais, tellement. Je fais beaucoup de dépression saisonnière. Là. Dès que le soleil se couche à 4 heures, là, mon seul espoir, c'est de chanter puis d'écrire, là, honnêtement. Là. Fait que, ouais.
Très bien.
Mais c'est ça.
Bah, vivement le prochain changement d'heure, alors.
Ouais, c'est le fun, le soleil qui se couche à 7 heures. Là.
T'es aussi slameur. T'as participé à des ligues de slam. T'as publié des clips, des textes de slam. Comment ça influence ta création aujourd'hui? Même si ton EP n'est pas directement du slam, mais est-ce qu'il y a... Il y a un lien qu'on peut faire.
Ouais, c'est sûr qu'il y a un lien qu'on peut faire. On l'entend surtout dans la troisième chanson du EP, Le Même Banc. Tu sais, je dirais que c'est des textes où on est vraiment en train de peindre un paysage complet. Puis c'est plus du storytelling, du raconter une histoire. Ça sent moins dans mon deuxième EP. Mm-hmm. Dans mon premier EP, c'était vraiment un hybride de slam puis de musique pop. Je trouve que c'est vraiment un beau médium, mais qui se prête moins bien à l'enregistrement, ou du moins, j'ai pas encore trouvé la manière de le mettre en valeur dans des enregistrements sonores. Mais j'aime vraiment ça, faire des slams au milieu de mes shows. Je trouve que ça ponctue beaucoup les performances, ça joue sur la trame narrative. Puis je vais en faire à mon lancement à Montréal le 16 mai au Quai des Brumes. Okay. C'est un 5 à 7, c'est gratuit. Vous viendrez, ça va être vraiment le fun.
Ouais. Très bien. Et donc, tu penserais à un album, un EP où tu pourrais mélanger textes de slam, des sortes d'interludes de slam et des chansons plus pop, ce serait possible, ça?
Ouais, ça serait possible. Il y a un... C'est une drôle de référence, là. C'est un peu loin, mais Kanye West, dans l'album Ye, son album de 2019, lui qui a des montagnes là, sur la couverture, je ne sais pas si c'est lequel ou si
je l'ai pas en tête,
une fan de Kanye West, mais parce que la première chanson, elle s'appelle « I Thought About Killing You ». Puis c'est comme un slam au début, puis après ça, la musique embarque. Puis c'est quand j'ai écouté ça pour la première fois, je me suis dit, OK, ça se fait du slam, tu sais, dans la musique. Fait que c'est ça, ouais.
OK, très bien, on tient quelque chose.
Ouais.
Donc auteur, compositeur, interprète, slameur, on te décrit aussi, enfin, tu es également un skater. Est-ce qu'on peut faire un petit lien avec la musique si on part à philosopher?
Ouais, on pourrait partir à philosopher, mais mettons, toi, est-ce que tu en vois un lien direct entre la musique et le skate ou...
Bah, le skate, c'est de la culture urbaine. Ton album, on voit dans le clip, tu filmes Montréal, tu filmes Québec. Je pense qu'il y a des liens à faire, mais ça, c'est à toi de nous le dire.
Ouais, ouais. mais je trouve ça le fun. Oui, ben, tu sais, il y a clairement un parallèle. Puis, tu sais, le skate, les gens voient souvent ça comme un sport ou « Ah, c'est un sport que tu pratiques au skatepark », mais ça, c'est une vision très, très réductrice du skate. Puis c'est ça, comme tu l'as bien dit, c'est beaucoup, tu sais, c'est de l'expression, c'est comme un style de vie urbain, c'est se promener dans la rue, trouver des endroits où faire du skate. Il y a le parc de la Paix juste à côté qui est comme un lieu iconique pour le skate à Montréal. Mais c'est ça, au final, le skate puis la musique, c'est très entremêlé, je pense. Je pense que faire des tricks de skate, ça m'inspire des mélodies, autant que des mélodies, ça m'inspire des tricks de skate. C'est plus un environnement, une forêt avec plusieurs arbres que juste un puis l'autre séparé, ouais.
Donc, il y a clairement un lien.
Ouais.
Très bien. Tu as sorti un clip pour ton titre Juliane, qui a été filmé notamment à la pellicule argentique avec un style rétro, avec du grain.
Ouais.
Pourquoi cette identité visuelle?
Ben, je voulais ajouter une teinte de nostalgie à la chanson, puis aussi la chanson, je l'ai écrite avec nostalgie, de comme mes amoureuses à temps partiel de Montréal que j'allais voir en Amigo Express. Fait que c'est ouais, c'est ça, puis c'est aussi avec Elisabeth Landry puis Hubert Poliquin, deux incroyables cinéastes, on a convenu que ça serait vraiment le fun de le faire à la pellicule. Puis c'est venu avec un lot de défis, mais ça a vraiment bien sorti, fait que je suis content. Ouais.
Ces images un peu rétro, elles me font penser notamment au clip de Ivy Tide ou de Les Louanges. Ouais. Est-ce qu'il y a une pop québécoise, une pop un peu rétro, nostalgique, qui est propre au Québec?
Hey, moi, je crois que oui, vraiment, absolument. Puis je trouve ça le fun que tu dises Les Louanges parce que je le considère pas nécessairement comme un pionnier de ça, mais un pilier, en tout cas, de cette pop nostalgique. Mais oui, il y a une sonorité, tu sais, il y a une sonorité québécoise, puis pour le monde de la ville de Québec comme moi, je pense qu'il y a aussi une sonorité de la ville de Québec, de Montréal, sonorité du Québec. Puis non, c'est cool, on se démarque au Québec, c'est fun.
Et quel genre de lien t'entretiens avec le monde artistique, musical? Est-ce qu'il y a des liens déjà? Est-ce qu'il y a une sorte de solidarité, une concurrence?
À Québec, la scène musicale en ce moment est en pleine effervescence là, depuis quelques années. Peut-être que vous t'en avez entendu parler ou non, mais ça se passe à Québec, puis c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de solidarité entre les artistes à Québec. Puis tu sais, il y a eu l'apport de plein d'artistes que j'admire énormément pour la composition puis l'enregistrement de Vanille Contact. Tu sais, il y a Jérôme 50 qui m'a beaucoup aidé avec les textes et les mélodies. Il y a Simon Kearney qui a joué la guitare puis la basse sur le EP. Fait que je trouve ça vraiment beau à Québec ce qui se passe. T'sais, le monde se tient ensemble. Je sens pas beaucoup de compétition. Puis comme Gabriel qui m'a aidé à composer le EP, il disait, les musiciens, tu sais, à Québec, c'est plus des collègues que des compétiteurs, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est comme, on est tous des collègues, puis moi, je vois ça de même aussi. Mm-hmm.
Ouais. T'as commencé à parler de ta gang de musiciens. T'es pas un artiste solo, t'es accompagné de plein de musiciens talentueux. Oui. C'est important pour toi d'être entouré comme ça?
Oui, absolument. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, le EP s'appelle Vanille Contact, puis pour moi, ça n'aurait aucun sens que ça soit toute une production solo. Lorsque mon but, c'est d'entrer en contact avec cette douceur-là, puis la douceur est aussi à travers les autres. Puis je pense à Gabrielle Côté, Gabé, son projet, c'est vraiment bon. Elle a une place importante dans le projet. Tout mon band, ils ont apporté beaucoup de modifications aux chansons, puis ils ont fait évoluer. Je pense à Marius Larue, le réalisateur, qui est un incroyable réalisateur, qui a eu son apport. Donc, pour moi, tu sais, il faut absolument cette rencontre-là magique avec tes amis pour faire de quoi de bon.
Quel musicien t'auras sur scène? Est-ce que ce seront les mêmes que sur l'album?
Pas exactement les mêmes, mais les musiciens sur scène, ça va être Mathieu Ferland à la basse, un des plus beaux mecs de la basse-ville. Gabriel Côté à la guitare, son projet c'est Gabé, c'est vraiment bon, vous irez écouter. Il va y avoir François Fortier au clavier, puis Dan Minvalley à la batterie. Ils vont être là avec moi le 16 mai au Quai des Brumes, ça va être vraiment cool.
Et quelle importance occupent les concerts dans ta vie d'artiste?
Moi, je trouve que c'est le plus fun. Les concerts, là, c'est les moments ponctuels les plus le fun dans la carrière artistique au complet. Peut-être l'enregistrement en studio, mais c'est différent, tu sais. L'enregistrement en studio, tu te prépares des mois pour ça, puis c'est comme, c'est mieux de marcher. Mais les spectacles aussi, là, ouais, c'est ça. Mais non, les spectacles, c'est le plus fun, tu sais. Puis voir, mettons, juste s'il y a une personne qui chante ta chanson en même temps que toi, c'est comme, pour moi, c'est le bonheur infini, tu sais.
Ouais. Le titre que tu as choisi de passer après l'entrevue, c'est « Laver les assiettes ». Tu as commencé à nous le pitcher un peu, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la jeunesse de ce titre-là?
Ouais, « Laver les assiettes », peut-être qu'il y a des gens qui vont « relate » à ça, mais ça parle un peu du silence qu'il y a dans le foyer familial. Puis mon père, quand j'étais petit, il mangeait vraiment vite, puis après ça, il se grouillait à laver les assiettes. Puis, je trouvais que c'était comme meubler les silences avec des gestes, avec des gestes. Puis, je me rends compte en grandissant qu'on fait beaucoup ça, les adultes. Pour éviter de parler de comment on sent, pour éviter de se rencontrer, on meuble nos solitudes d'action, de quotidien. Fait que ça parle de ça. Puis, c'est avec une touche d'insolence que je parle de ça, cette expérience-là de l'enfance, mais qui se projette sur ma vie d'adulte. Puis, je pense sur la vie d'adulte de plusieurs personnes. Mm-hmm.
Parce que la mélodie est quand même assez joyeuse pour un sujet qui, au final, est triste, voire parfois dramatique. T'aimes créer ce décalage-là?
Oui, j'aime beaucoup ça. Puis encore une fois, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est la force de la posture naïve. C'est que tu peux tout dire avec une posture naïve, tu sais. Un enfant qui dit « Ah, pourquoi le monsieur est enceinte? » Tu sais, « Ah, ça passe, puis c'est correct. » Mais si quelqu'un disait « Ah, le monsieur est gros », ben tu sais, directement, c'est offensant. Puis, tu sais, le but, c'est pas de dire des choses offensantes, camoufler, là, c'est pas ça que je dis. Mais c'est, on peut adresser des choses, puis c'est plus percutant. Mm-hmm. Puis, mais c'est aussi plus facile à accueillir, tu sais, les choses difficiles quand c'est dit d'une façon naïve. Fait que c'est pour ça, ouais.
Et alors, pourquoi choisir ce titre-là? Parce que je t'ai laissé le choix. Pourquoi, ouais. Pourquoi vouloir le diffuser?
Pourquoi vouloir le jouer, ouais, après notre entrevue? Ouais. Ah ben, je vais répondre de façon très candide que moi, je l'aime vraiment, cette chanson-là. Puis, ouais, je pense que c'est une belle introduction à mon univers, tu sais. C'est une belle porte d'entrée sur Philly puis la pop naïve. Puis c'est une bonne idée de ça va être comment le lancement qui débrume. Fait que je pense que c'est pour ça.
Ouais. Très bien. Très bon choix. Je suis complètement d'accord, okay, avec toi, mais c'est toujours mieux quand c'est justifié. Cool. Merci beaucoup, Philly, d'être venu nous parler de ton projet. Donc, le lancement de l'EP au Quai des Brumes le 16 mai en 5 à 7, c'est gratuit.
Ouais.
Y aura des musiciens, il y aura, oui, de la bonne humeur, j'imagine.
Oui, absolument.
Et toujours, ouais, un peu de vanille.
Oui,
très bien.
Toujours.
Et nous, de notre côté, on écoute Laver les assiettes de Philly. Merci beaucoup.
Génial.
Et puis, à bientôt.
Merci beaucoup, Charline.
On écoute Laver les assiettes.
Appris une chose de mes parents, c'est qu'on peut éviter tout ce qu'on ressent, à condition qu'on demeure en mouvement, ma mère en essuyant et papa en frottant. Ouh, ouh, ouh. J'ai regardé les assiettes s'empiler. Ouh, ah, ah. J'ai épongé mais toujours sans parler. Pris de pause jusqu'à présent, je devais compter les grains de sable mouvant, les doigts dans l'eau pour meubler mon silence, la tête dans le sable, préserver l'innocence. Avec le stress d'un éléphant dans la pièce, oh, oh, qui se balançait sur une toile, 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 toile d'anxiété.
Nous sommes à présent avec Thibaut Varin, humoriste envoyé spécial en France. Bonjour Thibaut, comment ça se passe de l'autre côté?
Salut Charline, ça se passe très bien. Écoute, il me reste juste 3 jours et j'ai tellement de choses à vous dire.
Et justement, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui?
Eh bien écoute, de plein de choses, un petit peu d'actualité, puis un petit peu de mon voyage, parce que ben, ça fait maintenant près de 3 semaines que j'ai quitté la Nouvelle-France pour aller passer des vacances en pas si Nouvelle-France, hein, la terre qui m'a vu naître il y a de cela 35 ans,
ouais,
et que j'ai quitté à l'âge de 10 ans pour venir m'installer dans la métropole montréalaise. J'ai donc le temps de 3 semaines mâcher des chewing-gums et non de la gomme, échanger mes running shoes pour des baskets, mes fake pour des ouais donc du coup, et mon trio Big Mac pour un maxi best-of Big Mac Top Flight Extra McDrive.
Voilà, la classique.
La classique, d'ailleurs, première fois que je suis allé au McDo parce qu'il fallait absolument que je teste le Big Mac, j'ai absolument rien compris de leur menu, Donc, bref, il va falloir revoir un petit peu le branding pour ceux qui viennent visiter le McDonald's.
Très bien.
Bon, je dois par contre dire tout de suite que j'étais pas tant de bonne humeur en partant de Montréal. Moi qui n'avais pas réalisé qu'on était le 6 avril et que quelques jours plus tard, j'allais manquer l'événement de l'année.
Ouais.
Ce moment où une boule de roche avec autant de cratères qu'un ado bourré d'acné allait passer devant une boule de feu donneuse de vitamine D. Mais bon, je vous rassure quand même, j'ai réussi à m'en remettre, là, gracieuseté de mon feed Instagram qui m'a permis de voir l'éclipse en immersion 3D. Tellement tout le monde hein, a immortalisé le moment sur leurs réseaux sociaux, donc merci à toi. Je sais pas si c'était, ça s'est rendu sur ton Instagram.
Oui, en effet, j'ai eu les mêmes images que toi, je pense.
Voilà. Bon, après, j'ai appris que la prochaine éclipse totale allait se reproduire dans 108 ans. Hein, et bon, étant de nature plutôt patiente, ben j'ai quand même assez hâte.
C'est bien.
Comme je disais, après 5 ans à ne pas être retourné au pays de la baguette et du camembert, j'ai profité de mes 3 semaines de vacances pour sillonner les petites routes normandes qui ont marqué ma jeunesse, à me rendre compte que les rues et les routes sont toujours aussi petites que leur format de bière, à m'habituer au code de la route et de sa fameuse priorité à droite, qui m'a d'ailleurs fait penser que la priorité à droite n'était pas juste faite pour le code de la route, mais aussi pour la politique. La France étant plus de droite qu'elle n'a jamais été. Et donc 3 semaines à manger de la charcuterie comme un cochon dans ce pays où charcuterie et apéro riment avec dès que ton verre est vide, revelant un peu de vino.
Pas mal.
Et où l'alcool coûte moins cher que de l'eau. D'ailleurs, je ne sais pas s'il nous écoute, mais PDG de la SAQ, prends des notes s'il te plaît, je reviens dans 3 jours. Par contre, oui, si on revient au code de la route, une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait que lorsqu'on dépasse quelqu'un en France et qu'on se fait dépasser, les conducteurs ne se regardent pas. Mm-hmm. Et moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je conduis à Montréal et à chaque fois qu'au Québec, et à chaque fois que je croise quelqu'un, ben, je suis le premier à vouloir voir la personne qui me coupe dans le trafic pour voir la face du petit Christ. Mais ici, non, tout le monde regarde droit devant et on n'a rien à faire de voir la tronche du mioche qui lui a fait une queue de poisson dans les bouchons. Et justement, pour en finir avec la section routière de ma chronique, j'ai été agréablement surpris de voir que sur l'autoroute, les Français respectent ce principe comme quoi si t'es lent, tu roules à droite et tu changes de voie juste pour dépasser.
Bien sûr.
Parce que je sais pas combien de fois j'ai sacré sur la 10 avoir une bonne vieille Toyota Camry dans la voie de gauche roulée à 90 pendant que tu arrives derrière avec 20 km/h de plus. non, mais en France, les Renault Twingo respectent bien les règles, donc bravo les cousins.
Ou plutôt, voilà.
Good job, hein, si je veux qu'ils me comprennent. Parce que oui, les anglicismes font partie hein, intégrante de la culture française. D'ailleurs, j'avais quand même hâte, moi, de voir à quel point le stéréotype, justement, du français moyen qui utilise des anglicismes autant qu'il ne respire était toujours aussi vrai. Mm-hmm. Et boy the boy, c'est pas seulement vrai, c'est affolant.
Ouais.
Hein? écoute, moi qui me considère bilingue, j'avais parfois de la misère à comprendre mes cousins-cousines. Ouais, non, ça va, la journée top light au taf. Je vais moi-même aller chercher mon drive au break du midi. Journée relax au travail et tu dois aller chercher un disque dur pour ton ordi.
Merci hein, pour la traduction.
Ouais, non, tu parles de. Mais quand tu parles de drive, j'imagine que tu parles d'un hard drive. Oh, non, le drive, c'est les courses. Je dois aller chercher les courses au supermarché. Mm-hmm. Ah, tu vas ramasser ton épicerie. T'as quoi? Bref, ça n'a pas été facile de me faire comprendre par mes cousins, mais au final, bon, je me suis dit que je restais juste 3 semaines puis que j'allais leur foutre la paix après. Donc voilà. Et bon, si c'était juste le parler, à la limite, ça irait, mais c'est encore plus vrai pour les commerces, hein, les anglicismes. Moi, je me suis promené dans les rues de Rouen et coup sur coup, et ça, c'est vraiment pas des blagues, je suis tombé sur un commerce d'épilation, de vente de téléphones, de pédicures, d'immobilier et de produits naturels. Et là, attention, les noms. Hein, je vais essayer de les prononcer à la française. Donc, ça donne Epil House, Premium Reseller, Rayline Beauty, Rooftop Immobilier et Green Power Shop. Bref, si c'était pas de moi qui rentre dans les commerces pour savoir un petit peu de quoi ça parlait, j'aurais aucune idée dans quelle ville j'étais. Mais heureusement, juste après, il y avait un McDo. Sinon, j'aurais justement pété un câble, pété une coche hein, pour nos auditeurs montréalais.
Bien sûr.
Et parlant de bouffe, j'ai profité de mon voyage pour manger de la bonne cuisine française. Donc, kebab, sushi et kebab. Hein? comme quoi, il n'y a pas juste chez nous où le fast-food est maître.
Ouais.
D'ailleurs, dans la bouffe, mes amis d'enfance étaient bien contents de m'apprendre que leur pub favori, le Vixen, pour ne pas le nommer à Rouen, servait la meilleure poutine en ville.
Mm-hmm.
Et là, j'avais quand même des assez hautes attentes. Mais bon, j'ai rapidement compris que c'était la meilleure pour la simple et unique raison que c'était le seul endroit en ville où on pouvait en manger. Mais c'était surprenamment pas mauvais. Puis quand la serveuse m'a demandé l'avis donc de l'expert québécois et si j'avais apprécié la poutine, ben je lui ai quand même donné la note de 7. Mm-hmm. Ce qui est pas si mal. Bon, après, sur 20, c'est beaucoup, oui, mais c'est quand même une 7. Donc, puis en gros, le seul problème là-bas, c'est que le fromage ne fait pas squick squick, mais plus ro-putain. Mais bon, dans la vie, on peut pas tout avoir.
En effet.
Voilà. Et à part ça, vous êtes probablement pas sans savoir que la France accueille cette année les Jeux Olympiques. Mm-hmm. Hein?
Bien sûr.
Ce fameux moment qui arrive tous les 4 ans et où Michel de la comptabilité devient soudainement expert du plongeon 10 mètres masculin après avoir vu les qualifications par pur hasard entre le téléjournal et une rediffusion de L'Amour est dans le pré.
On le connaît
ce
tous.
Même moment où ta voisine Louise en oublie d'arroser ses plantes tellement elle doit encourager ses athlètes aux 400 mètres haies, au POG et au BI. Parce que Dieu sait que si elle ne regarde pas ses chéris, ils vont évidemment moins bien performer. Et finalement, ce fameux moment où du jour au lendemain, ton frère est capable de te nommer le top 10 mondial des tireurs à l'arc.
Voilà.
Je sais pas pour toi, mais moi, les Jeux Olympiques, je regarde ça à droite et à gauche. Et c'est quand même assez fou à quel point ça peut être entraînant puis qu'on devient un petit peu gaga de nos pays. Je sais pas si toi, tu suis, Charline, un petit peu, tu vas suivre les Jeux Olympiques.
Oui, bien sûr. La France, le Canada, à fond.
Oui, c'est ça. Puis moi, je dois admettre que je suis un petit peu coupable de devenir soudainement justement accro aux Jeux Olympiques. Je pense en fait que je suis fasciné moi par ces personnes qui de jour travaillent dans des cabinets d'avocats ou des shops de réparation de shopback et qui le soir s'entraînent à lancer des javelots dans le parc Maisonneuve pour aller représenter le Canada une fois aux 8 ans. Hein, parce que évidemment les Jeux d'été c'est une fois aux 8 ans, les Jeux d'hiver une fois aux 8 ans. Et voilà pour devenir éventuellement un héros qu'on oubliera malheureusement aussi rapidement qu'on a fait leur connaissance. Ouais, donc respect.
C'est la beauté des Jeux Olympiques.
Oui, absolument. Donc voilà, respect à nos athlètes. Et parlant de discipline aux Jeux Olympiques, j'ai appris que le pays organisateur des Jeux Olympiques a le droit d'ajouter 4 disciplines au programme. Ça, je le savais pas. En autant que je suivais les Jeux Olympiques, je savais pas du tout. Et cette année, la France a ajouté le skateboard, le surf, l'escalade et le breakdance.
Ouais.
Ou, en tout cas, comme l'appellent bizarrement et non surprenamment les Français, le breaking. Chance que je suis allé voir la description parce que sinon, j'aurais jamais su. Donc voilà, même si vous ne verrez pas Sarah-Jeanne Labrosse animer la compétition, ne soyez pas surpris si vous avez l'impression de tomber sur une rediffusion de Révolution à TVA.
Voilà. Hein,
ceux qui ont le référent comprendront la petite compétition de danse à la télé. Et si vous suivez un petit peu les JO, vous savez que d'édition en édition, les pays dépensent des sommes astronomiques pour construire des sites qui, justement, un mois plus tard, sont laissés à l'abandon, un petit peu à la Rémy sans famille. Mais cette année, la France s'est dit qu'elle allait utiliser un maximum d'infrastructures déjà construites et s'est même donné la mission de dépolluer le fleuve de la Seine pour qu'on y tienne des disciplines aquatiques telles que la recherche de vélos abandonnés ou la descente de toboggan en équipe. Et 1,4 milliard d'euros et d'épuration plus tard, le président français a laissé en suspens qu'il allait peut-être s'y baigner durant les Jeux Olympiques. Donc, je sais pas pour vous, mais Emmanuel Macron en speedo, ça a de quoi faire rêver. Hein?
En effet.
À voir maintenant si le comité olympique va ajouter une médaille de plomb pour l'athlète le plus intoxiqué aux métaux lourds. Mais bon, bref, à suivre.
Très bien.
Par contre, les Jeux Olympiques, ça n'amène pas que du beau. Hein? Puis je m'explique, depuis un an, Paris déporte des personnes en situation d'itinérance vers la ville d'Orléans, une ville qui est à une 150 de kilomètres de Paris, dans une optique d'épurer les rues de Paris et la rendre plus jolie.
Mm-hmm.
Hein? Parce que tout le monde sait que des itinérants, mieux vaut s'en débarrasser que de les aider, n'est-ce pas? En d'autres mots, Paris fait rien de moins qu'un nettoyage social et le pire, c'est qu'il n'avait jamais averti le maire d'Orléans.
Ah oui.
C'est complètement fou quand on y pense. Ça, c'est un peu comme si on organisait une compétition provinciale de spikeball dans le parc Émilie-Gamelin et qu'on déportait ces itinérants à Longueuil sans leur donner de billets de REM pour revenir sur l'île.
Oui, c'est dommage.
Bon, la comparaison est un petit peu boiteuse, mais c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé.
C'est très
bien. Et pour terminer avec les Jeux olympiques et les compétitions sportives, j'ai pas trop le choix d'avouer que quand vient le temps des Jeux olympiques et de la Coupe du monde, j'utilise la carte de ma double nationalité pour encourager mes deux pays.
Bien sûr.
Et donc m'assurer d'être doublement déçu lorsqu'ils perdent. Et ça m'a fait me poser une question. Qui suis-je véritablement au niveau identitaire?
Mm-hmm.
Parce que, je suis né en France, mais ça fait quand même 25 ans que j'habite à Montréal. Et malgré mes deux passeports et ma double nationalité, suis-je français, suis-je canadien, québécois, qui suis-je? Mm-hmm. Parce que bon, quand je suis arrivé à Montréal, disons que non seulement mon accent me trahissait, bon, dès le début évidemment, mais aussi mon prénom, hein, Thibault, qui au Québec est un des top 10 noms de famille les plus populaires, alors qu'en tant que prénom, ben, il n'y en a pas un seul qui est né dans les 20 dernières années. Okay. D'ailleurs, avec le recul, ben, mon prénom, je pense que c'est plus considéré comme un prénom de famille.
Oh, voilà, très bien.
Ouais, petit jeu de mots un petit peu bof, mais
il
bref.
Il en faut,
Oui, c'est ça, exact. Puis je pense qu'on commence à être un petit peu habitué avec mes chroniques.
Non.
Et ben merci, t'es bien gentil. Mais même si j'ai eu en tant que Français une intégration plus facile et privilégiée que bien d'autres immigrants, ben ça m'a pris un certain temps personnellement à m'acclimater. Mais ben 25 ans plus tard, je joue au hockey 12 fois par année et je mange de la poutine et de la tourtière bien plus souvent que je ne cuisine du canard et me fais du bœuf bourguignon. Donc au final, je me considère et me considérais toujours fier de mes origines françaises et j'ai pas un plaisir fou à chaque fois que je reviens en France une fois ou quatre ans pour visiter la famille et les amis. Mais ultimement, je sacre en québécois et ben quand je suis de passage en France et qu'on me dit ah voilà le Canadien, ben ça me prend pas deux secondes pour que je réponde ouais non québécois s'il te plaît. Donc j'imagine que j'ai ma réponse. Et comme j'ai toujours dit, de toute façon, vous pourriez me donner 1 million pour revenir habiter en France. Bon, je vous remercie et je vous encourage à faire un don à ma fondation. Mais vous pouvez garder votre argent parce que ma vie, ben, elle est au Québec. Et malgré que je garde parfois un petit peu mon côté chiant qui vient avec le passeport français, ben, j'ai quand même hâte de rentrer à la maison. Et j'ai même un tournoi de hockey avec mes boys en fin de semaine prochaine à Sherbrooke. Et j'ai bien hâte de craquer un bon slapshot de la ligne bleue et de fêter après la game avec une bonne grosse labat de 50.
Eh ben, on t'attend tous oui, avec impatience, Thibaut. J'espère que tu reviendras bien vite.
Ben, avec plaisir. Donc voilà, c'était Thibaut, envoyé spécial en direct de Paris.
À vous les studios.
Oui, c'est ça, exactement. J'espère que la communication s'est bien faite. Je suppose sur les ondes, si on a un retour positif.
On a tout compris. Moi, j'ai compris toutes les blagues personnellement. Je pense que c'est la même chose pour les auditeurs.
Bon, ben c'est super. Donc, je te remercie beaucoup, Charline.
Merci beaucoup, Thibaut. Et puis, on se revoit dans 2 semaines pour ta prochaine chronique. Merci beaucoup et bon retour. Bye-bye.
Merci, bye-bye.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et voilà, l'émission du lundi matin est déjà finie. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Michael Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on recevra l'animateur d'ici Radio-Canada Première, Patrick Masbourian, pour nous parler de sa matinale tout un matin. Et puis, on recevra également le président du journal Les Échos Montréal pour parler d'enjeux des médias locaux. Alors, restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis, n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes, sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca/hébergement touristique.
un message du gouvernement du Québec.
Tu aimes partager tes passions? Tu as une idée d'émission et tu veux faire de la radio? C'est le moment de te lancer et d'embarquer dans l'aventure radiophonique. CIBL 101.5 est à la recherche de nouvelles émissions pour sa saison estivale. N'hésite surtout pas à nous soumettre ton projet d'émission radio. Rendez-vous sur notre site web cibl1015.com pour tous les détails.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophie Zito, allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13h.
CIBL. Au cœur de la culture.
Ça faisait longtemps.